Radio Galère 88.4, c'est l'heure de BIM, BD Illustration à Marseille, nouvelle émission consacrée à la scène graphique de Marseille. Une scène graphique tellement riche qu'elle méritait bien une émission de radio. On parlera tous les deuxièmes jeudis du mois à 15h, et quand vous voulez en podcast, de BD, de livres illustrés, pour petits mais aussi pour les grands. Et aussi des expositions, et toujours en lien avec des artistes basés à Marseille. Cette deuxième émission spéciale BD, après Lisa Lugrin et Clément Xavier le mois dernier, nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'autrice marseillaise Nine Antico à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage autobiographique, l'excellent Une Obsession, paru chez Charivari, un nouveau label des éditions d'Argo, le 12 septembre dernier. Bonjour Nine, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci Jean-Pierre.
Avant de parler de ce nouvel ouvrage Une Obsession, je te propose que nous revenions sur tes débuts et certains de tes précédents ouvrages, notamment ta première BD, Le Goût du Paradis, qui présente de nombreux liens avec Une Obsession. Alors tu es l'autrice de plusieurs BD qui s'intéressent pratiquement toutes à des destins de femmes, qu'elles soient anonymes ou plus connues, quand ce ne sont pas carrément des ouvrages autobiographiques comme Une Obsession, et le tout souvent baigné de musique rock, de pop culture, et la plupart en noir et blanc, sauf une trilogie aux éditions Glénat que tu as dessinée en couleur, on en reparlera certainement tout à l'heure. Mais commençons par le commencement, si tu as toujours dessiné, tu n'as pas fait d'école d'art, et tu as publié tes premiers dessins dans un fanzine qui s'appelait Rock This Way. Est-ce qu'on peut dire que tu es autodidacte et qu'est-ce que ça représente pour toi ?
Donc ouais, je suis autodidacte dans le sens où j'ai pas fait les écoles d'art. Alors je mens un petit peu parce que j'ai vers 18-19 ans, j'ai fait un an de prépa pour essayer de rentrer dans les grandes écoles, mais j'ai pas eu les concours des grandes écoles type Art déco, Beaux-Arts que je demandais. Mais j'ai été prise aux Beaux-Arts d'Orléans et je crois que j'avais vachement besoin de ce oui parce que je m'étais déjà pris des beaux vents quand j'étais en troisième et que je voulais rentrer dans un lycée art appliqué. Ensuite, après le bac, quand je voulais rentrer faire une filière F12 à l'époque. Donc j'avais déjà essuyé des échecs et donc ce oui-là qui est venu plus tard, donc au troisième coup, j'ai fait le jour de la rentrée au Beaux-Arts d'Orléans et je suis repartie le soir même parce que j'ai eu une mauvaise vibration. Il y avait un discours qui prenait la lenteur, la patience et je crois que j'avais plus du tout envie de ça. Et en plus, de me décrocher de Paris alors que je commençais tout juste à goûter à l'effervescence des concerts dans les petites salles, à me faire un espèce de réseau pour sortir, et puis mes amis, quoi, ça me le faisait pas du tout. Donc je suis rentrée à Paris et c'est à partir de là, en fait, où j'ai commencé à vraiment dessiner dans mes carnets, à faire des fanzines, à avoir des jobs à côté alimentaires, mais... C'est un peu là que j'ai éclos, quoi.
Oui, tu parlais effectivement de concerts, on pourra parler de ta passion pour la musique plus tard si tu veux, mais effectivement, tu as commencé à dessiner dans ces carnets, notamment des dessins de concerts.
Ouais, en fait, c'est des carnets Moleskine que j'avais tout le temps avec moi, et ça me permettait de faire des dessins sur le vif, des situations que je vivais en sortant. C'était vraiment mes premières libertés, quoi, parce que je quittais le foyer... familiale, j'y vivais avec ma mère juste avant, et là de sortir toute seule, de choisir mes concerts, c'est vraiment les premiers pas d'initiation, de se dire ok, moi, ma vie, je vais en faire ça, la musique que je vais écouter maintenant, ça va être celle-là, et ça s'est fait petit à petit, et de dessiner, par contre, voilà, c'est devenu une espèce de geste naturel, comme un prolongement de qui j'étais, de tout le temps dessiner mes potes et de sous-titrer les dessins, les portraits que je pouvais faire d'eux, de petites phrases qu'ils étaient en train de dire. Et ces petites scénettes, au fur et à mesure, c'est devenu des dialogues parfois. Et comme ça, malgré moi, c'est-à-dire que sans penser que j'allais faire de la bande dessinée, parce que j'imaginais pas que j'avais quelque chose à raconter en termes d'histoire développée. Là, je suis venue au fur et à mesure à des récits qu'ont donné ma première BD, Le Goût du Paradis. Mais c'est vrai que dans ces carnets, il y avait mes sorties, et dans mes sorties, il y avait des croquis que je pouvais faire en concert en me mettant au premier rang avec des feutres Posca sur moi. J'avais envie, comme je pouvais pas, j'arrivais pas du tout à parler de musique, mais que la musique me touchait énormément et ce qui se passait sur scène. Je trouvais que parfois, voilà, il y avait des instants de grâce, d'émotion. Et moi, ma façon de restituer ça, eh ben, c'était de le dessiner plutôt que d'en parler. Et j'essayais... je sentais que des fois, j'arrivais à choper vraiment quelque chose d'un trait. Parce que voilà, on n'a pas le temps en concert de s'attarder. Donc j'essayais dans un mouvement assez rapide de choper la posture que le chanteur ou la chanteuse ou les musiciens pouvaient avoir le plus souvent. Qu'est-ce qu'il est représenté ? De synthétiser dans quelques gestes qui ils étaient. Et voilà, ça c'est devenu un peu une drogue en fait. En concert, pour moi, ça voulait dire dessiner. Et un bon concert pour moi, c'était aussi un concert où j'avais réussi à capturer un peu de la magie, du charisme des personnes devant moi. Quoi.
C'est une pratique que tu continues encore aujourd'hui ou...
Non, beaucoup moins. Enfin, je m'y suis remise. Un peu grâce au festival BIM et à Salut les Iquettes, qui est une asso tenue par des copines à moi qui promeuvent la musique pour décomplexer un peu le rapport genré de la musique, notamment la musique punk rock, pour faciliter la scène aux femmes.
On vous invite à voir effectivement tout ce qui, enfin écouter surtout.
Ouais.
Tout ce qu'elle propose. Donc c'est Salut les Iquettes avec un K.
Ouais.
Iquettes et un Z. Oui, moi justement, avant de parler peut-être plus longuement de tes bandes dessinées, je voulais qu'on s'attarde un petit peu à ton travail purement graphique. Donc voilà, effectivement, ces débuts avec les dessins de concert notamment. Après, tu as aussi illustré pour la presse, des titres plus ou moins grand public. Tu as signé aussi 2 livres illustrés pour la jeunesse. Donc là, en couleur, plutôt, alors que tes BD sont plutôt en noir et blanc.
Mmh.
Et aussi participer à de nombreuses expositions, qu'elles soient collectives ou monographiques. Là, tout récemment, je crois que c'est fini ces jours-ci, à Paris, à la Galerie Martel. Donc il y avait une exposition.
Ouais, elle vient de se terminer.
Voilà,
ouais.
Quelques jours.
Et ça enchaîne à Marseille avec une exposition à la Réserve à Bulles, qui a commencé et qui dure jusqu'au 29 novembre, le samedi, jour où je ferai une rencontre avec Claire Brault pour son BDQ. Touche pas à la femme blanche qui vient de sortir et ouais. Moi donc autour de mon dernier livre Une obsession.
Donc rendez-vous est pris pour du coup samedi 29 novembre, moi je serai là à l'excellente librairie Réserve à Bulles. Voilà, alors moi je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que ce t'apportait ce travail purement graphique en parallèle de tes BD, que ce soit l'illustration, jeunesse, presse et aussi ces expositions où tu en fais quand même assez régulièrement. Il y en a eu à Angoulême l'année dernière si je dis pas de bêtises.
Bah en fait ce que j'aime dans le dessin, en fait, c'est raconter une histoire. Donc, parfois, c'est en bande dessinée et ça prend énormément de temps. Et ce que j'aime dans ce rapport au temps d'une bande dessinée, c'est qu'on prédit quelque chose, on a des intuitions et un canevas et on se lance. Et au fur et à mesure que la recherche se nourrit, que le temps passe, eh ben, y a des choses qui s'agrègent. Et il y a des voilà il y a des bouts de l'histoire qui commencent à émerger qui n'étaient pas là et finalement j'adore comment ce temps long il peut faire grandir notre idée de base et que ça suit aussi le courant de notre vie. Ça je trouve ça assez beau. Après j'aime aussi les dessins one shot, enfin les petites ou les récits plus courts, mais aussi juste un dessin illustratif qui puisse contenir un récit plus grand, une histoire. Enfin l'idée moi c'est toujours de raconter quelque chose qui se passe, une scène quoi, et qu'on ait envie d'imaginer l'avant l'après quoi de ce dessin. Et le dessin couleur, c'est vrai que dans ma pratique, c'est quand même plus lié à l'illustration. Voilà, j'ai peu de bandes dessinées. J'ai celles chez Glénat pour l'instant qui sont en couleur parce qu'il y a un côté pop, il y a un côté divertissement. C'est des histoires en une page. Et pour l'instant, je n'ai jamais mené sur un récit long, un travail de couleur comme je peux le faire en illustration. Je trouve que c'est aussi parce que le noir et blanc a un impact tellement fort au niveau artistique parfois j'ai l'impression que la couleur elle enlève un peu de cette force. Et il faut que ça soit pensé en amont, quoi. On peut absolument pas corriger, c'est-à-dire partir avec une idée en noir et blanc et ensuite se dire ah ben je vais mettre de la couleur. Donc moi c'est vrai qu'il y a tout un champ de mes envies où je sais que c'est le noir et blanc qui va suffire et même embellir, impacter. Et la couleur c'est une autre gestion, quoi. Et j'aime bien, ça m'arrive de faire des peintures ou de. Et en général, c'est parce que une expo va avoir lieu et là, je me dis, ah, je passe du temps, je m'accorde ce temps à faire un peu des formats autres que la BD. Mais sinon, j'avoue que les bandes dessinées me prennent tellement de temps, c'est tellement cannibale comme activité que j'ai pas beaucoup de digressions. Je m'en autorise pas beaucoup, quoi.
Bah justement, donc on va revenir un peu aux bandes dessinées, qui est quand même le gros de ton œuvre.
Ouais.
Voilà, donc ta carrière BD commence réellement en 2008, quand tu publies ta première BD, Le Goût du Paradis. Donc ça paraît d'abord aux éditions Ego Comics, qui est une maison d'édition qui n'existe malheureusement plus. Ça a été réédité après en 2011 au Rocamarteau. Suivent ensuite, en 2010, Coney Island Baby, à l'association, qui est le double portrait de Betty Page et Linda Lovelace, deux icônes... d'une certaine idée de la femme, on va dire, qui ont...
Moi, j'aime bien dire que c'est deux femmes qui ont exploité leur corps pour en faire leur travail, l'une pin-up et l'autre actrice porno. Et elles avaient en lien le fait d'avoir mal fini, comme on dit dans les journaux, ou comme le dit la société. Et j'avais envie de traiter ça comme une fable, en utilisant un personnage qu'elles ont toutes les deux connues, c'est Hugh Hefner de Playboy. Et donc voilà, je me suis approprié leur récit de vie comme un conte de Dickens, quoi.
Ah, c'est un superbe ouvrage, deuxième titre très fort. Toujours chez le même éditeur, tu as aussi signé, on les cite un petit peu brièvement, comme ça les gens qui ne connaissent pas ton travail peuvent aussi un petit peu savoir de quoi on parle. Donc Hotel California, où là il y a deux volumes, là on reste aux États-Unis, c'est encore le portrait de femme. Plus lié au milieu de la musique.
Ouais, c'est Pamela Desbarres qui m'a inspirée. Une femme qui a écrit Confession d'une groupie, qui était sortie au Serpent à plumes, qui raconte sa vie dans la musique en tant que spectatrice d'abord. Et puis après, elle a eu un groupe produit par Zappa, les GTOs. Mais donc, c'est une addict à la musique et aux hommes, quoi.
Et ensuite, donc, tu l'as évoqué, donc aux éditions Glénat, il y a eu trois volumes, donc là en couleur, contrairement au premier qu'on a cité en noir et blanc. Donc, qui sont une sorte de trilogie,
ouais,
entre guillemets. Donc, il y a Girls Don't Cry, qui est donc plutôt l'âge de l'adolescence, on va dire.
Ouais, c'est 15-20. Ensuite, c'est 20-25.
Voilà, les jeunes adultes dans Tonight. Et le troisième, donc, qui s'appelle America. Donc là, qui s'intéresse donc, toujours un peu au même personnage qui s'appelle Pauline.
Ouais.
Voilà, donc là, qu'on voit dans un âge un peu plus adulte. Donc, suite à une rupture amoureuse, elle fait un voyage en Amérique. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi peut-être des liens avec une obsession, ou
ouais,
cette histoire du voyage, de la rupture. Et là, plus récemment, donc Madone et Putain, qui est sorti en 2023, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais.
Où là, tu t'intéresses au destin de trois femmes dans l'Italie du XXe siècle. Et là encore, un peu comme dans Coney Island Baby, trois femmes qui ont eu des destins, un petit peu aussi là, par rapport à la société qui les a jugées.
Ouais, et c'est un peu dur. Qui ont vu... leur vie éreintée, écourtée et leur plaisir arrêté. Et elles ont en commun aussi de porter chacune le nom de Madone, dont les vies viennent un peu, comment dire, toucher à certains points de leur vie à elles, dans leur sacrifice.
D'où le titre, Madone et Putain, effectivement. Ce lien. Et moi, effectivement, ce qui. Bon, comme ça, c'est vrai que c'est un peu rapide de résumer là, ta production en quelques lignes, comme ça. Mais effectivement, il y a comme quelque chose qui se dégage, c'est quand même ces destins de femmes qui t'intéressent. Et moi, j'ai l'impression, et c'est. Alors là, le titre Madone et Putain est très parlant là-dessus, c'est que si ce qui t'intéresse, c'est le fait qu'elle n'ait pas une vie toute noire ou toute blanche, qu'il y a cette nuance, je dirais. Et donc, c'est. Quelque chose de volontaire ou c'est en fait
ouais non mais c'est forcément des destins. Alors après, je pense que personne sur Terre peut se targuer d'avoir une vie sans ou toute blanche ou toute noire, mais peut-être qu'il y a des gens qui supportent moins l'ambiguïté. Moi, c'est vrai que c'est ça que je vais creuser, parce que la mienne, d'abord, dans mes points de lucidité par rapport à qui je suis en tant qu'être humain, en tant que femme. Et oui, mais les femmes auxquelles je m'intéresse, c'est, elles abordent, elles ont une façon de s'emparer de leur vie d'une façon avant-gardiste par rapport à leur époque à chaque fois, mais du coup en se prenant des revers, en étant jugées, en se jugeant elles-mêmes aussi la plupart du temps. Et c'est, je crois que je viens à chaque fois essayer d'analyser en quoi elles essaient d'être libres, comment elles se démènent pour prendre leur liberté, et en quoi finalement cette liberté est toujours contrainte et en but à quelque chose, quoi. On est forcément dans, on sort de certains carcans et on va vers d'autres, quoi. On passe notre temps à essayer d'ouvrir des portes.
Et ça te semble, du coup, ces contraintes, elles sont amenées plutôt par du coup l'extérieur, généralement?
Oui, par l'extérieur et par rapport aux femmes, elles, ça a souvent très, ça suit un peu tous mes livres. C'est forcément via les libertés qu'elles prennent par leur corps, par leur sexualité, qui est souvent l'épicentre de leur des souffrances et du jugement qui va les bloquer à un certain moment, quoi.
Alors, je pense, avec ton dernier livre aussi, peut-être
ouais,
plus intime, mais alors pour finir un petit peu, de balayer un peu tout, effectivement, tout ton travail, il y a aussi tu as aussi travaillé avec d'autres dessinateurs et dessinatrices. Alors, j'ai pas cité, tu as signé aussi toute seule un ouvrage dans la collection BDQ dont on a parlé tout à l'heure avec Claire Brault, qui s'appelle I Love Alice, qui se passe dans le milieu du rugby féminin, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, dans cette même collection, tu as écrit donc une histoire qui, donc, le titre s'appelle Vulva Vulgaris, avec Amina Bouajila au dessin. Donc c'est toujours dans la collection BDQ, donc ça mêle toujours sexe, mais avec un décalé. Là, c'est autour du ménage, les interactions entre...
Ouais, mais ça aborde déjà un des thèmes d'une obsession, c'est la masturbation, l'autosuffisance.
J'ai oublié de dire que c'était peut-être pas pour tous les publics. Là,
oui,
cette
pardon. Ouais. Ouais.
Et... L'autosuffisance, ouais, c'est un livre assez étonnant. Et alors, rien à voir, mais tu as aussi signé le scénario de Il était deux fois Arthur. Donc là, c'est au dessin, c'est Grégoire Carlet. Et donc là, tu mêles encore deux destins, mais là, d'hommes. Ouais. À savoir le boxeur Jack Johnson et le poète artiste Arthur Cravant.
Bah là, en fait, c'est pour moi. Alors, je pense que je suis allée vers Grégoire Carlet parce que j'ai aimé son dessin et parce que aussi je sentais que j'avais pas autant envie de dessiner des personnages masculins. Mais par contre, moi, il me faisait à fond fantasmer. C'est moi qui ai voulu faire cette histoire parce que leur destin. De boxeurs, alors l'un pro champion du monde, Jack Johnson, et Arthur Cravant plutôt niveau amateur, mais ils s'étaient rencontrés à un match qui est devenu mythique, une espèce de match connu comme un des premiers happenings de l'histoire. Et sauf que quand j'entendais parler de leurs deux, c'était juste pour cet instant ensemble, et ensuite on les mettait jamais en parallèle. Alors que moi, en lisant sur leur vie, je me suis aperçue qu'ils avaient beaucoup de points communs, et c'est ce qui m'a attirée vers eux, c'est clairement aussi leur façon d'être libre, comment ils se sont affranchis chacun de leur milieu, de leur pays, et en quoi leur égoïsme d'artiste aussi leur a servi, et en même temps a eu des répercussions sur leur entourage, quoi.
Oui, c'est assez cohérent avec tes ouvrages par ailleurs.
Ouais, tout à fait, sauf que c'est des hommes, mais ça m'a intéressé. Mais c'est vrai que voilà, en appétence de dessinatrice, je sentais que je m'éclaterais pas autant, et en plus j'avais envie, mais j'aime beaucoup cette partie de scénariste, et je pense que ça peut me réarriver Parce que je pense que j'ai plus de récits que de temps pour mener, et puis qu'il y a vraiment des projets où, quand j'aime le dessin de quelqu'un et que voilà, on a une certaine entente, c'était le cas pour céder le livre, ça, je suis vraiment super contente et je ne, pour rien au monde, je me dirais ah, je le referai toute seule, enfin pas du tout quoi.
Ouais, bon, bah, écoute, on attend de voir d'autres éventuelles collaborations
avec
à l'avenir.
Emmanuel Guibert. Si tu veux. Non, c'est plutôt moi qui vais dessiner pour lui.
Bah, j'avais une petite dernière question un peu plus anecdotique, mais c'était par rapport effectivement avec à Marseille, parce que là, du coup, cette émission est consacrée quand même aux auteurs et aux autrices basées à Marseille. Donc, je sais que tu es né en région parisienne, tu t'es installé à Marseille il y a quoi, une dizaine d'années?
Oui, ça fait 10 ans maintenant. Mais bravo. J'étais déjà venue quand j'avais 18 ans, donc dans les années 2000. J'avais passé quelques mois, j'avais été serveuse à la Pointe Rouge et je m'étais dit ah, je m'installe là, je fais la saison de serveuse, ensuite je passe mon permis, ensuite je fais une école d'art, et enfin voilà, je me voyais m'installer là. Et au final je suis restée 4-5 mois et puis je me suis rendu compte que ça allait pas se passer exactement comme la trajectoire rêvée que je voulais, c'est-à-dire que je pouvais pas rentrer dans une école d'art comme ça en disant toc toc badaboum c'est moi. Et mon permis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je ne l'ai toujours pas. Et bref, en fait, j'ai senti que ce n'était pas le moment. Et donc, je suis remontée à Paris. Et ça a aussi été un pas dans ma vie. Parce que j'ai habité toute seule ensuite après le passage à Marseille. Et il se trouve que des années plus tard, donc quand j'ai eu 34 ans, je suis arrivée à Marseille. Et c'était parce que j'ai suivi un homme dont j'étais amoureuse, avec qui j'ai fait un enfant. Et alors, je pense pas que je l'aurais suivi partout au monde. Il se trouve que, voilà, là où il s'installait, c'était Marseille, pas Vierzon. Et que ça me faisait très envie et que je sentais que j'avais envie de me rapprocher de la Méditerranée. J'avais envie de m'accorder cette barbe à papa au quotidien, quoi.
Et bah, du coup, avant de vraiment s'intéresser plus particulièrement à une obsession, là, ton dernier ouvrage, je voulais aussi qu'on évoque un peu ton premier, Le goût du paradis, qui me semble être quand même très en lien, voilà, qui est aussi un récit autobiographique. Moi, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup et je voulais savoir un petit peu si tu voulais nous raconter un peu comment était né ce premier livre. Alors, je sais qu'il y avait un lien un peu avec ta pratique de carnet, notamment.
Ouais, j'ai commencé à dessiner des souvenirs, là, tout d'abord de moi qui m'ennuyais pendant les repas interminables du dimanche où je traînais. J'essayais de zoner avec un livre dans la maison loin de la famille, mais j'étais déjà voilà, tout le temps à penser à un garçon dont j'étais amoureuse. Cette scénette... Après celle-ci, j'en ai fait une autre, mais je sentais que j'avais déjà ce penchant pour ce fantasme absolu pour ce qu'allait être le flirt, les garçons, les relations, et en même temps j'avais d'autres scénettes qui s'additionnaient, qui étaient le vécu dans mon collège à Aubervilliers, qui était assez éprouvant à certains endroits par rapport à ce qui se joue, alors pour n'importe qui à l'adolescence, c'est-à-dire ce qu'on a à se prouver, etc. Et là, en plus, il y avait une espèce de bande de filles qui foutaient un peu la merde et dont qui ont semé un peu pas la terreur, ça serait exagéré, mais en tout cas qui il y a cette notion de se battre qui est arrivée pour moi à l'adolescence et qui m'a vachement éprouvée, au sens où j'arrivais pas à me présumer courageuse. Et en fait, ma lâcheté que je m'imputais m'a suivie pendant longtemps, et je me suis mise à la boxe vers la trentaine pour essayer d'enlever ce souvenir qui m'a un peu noirci mes années, enfin ma sixième surtout, je dois dire. Donc ouais, j'avais envie de parler de cette forme de violence et l'aspect critique, très critique qu'on peut avoir envers soi-même, envers sa famille, envers... Et puis, moi, j'avais le complexe d'être blanche. Alors je résume un peu, mais c'est un raccourci dans le sens où je voyais que mes amis qui étaient issus d'une immigration de la première ou deuxième génération, ils avaient peut-être plus de difficultés que moi dans leur vie. Moi, mes deux parents travaillaient et j'avais un espèce de complexe de supériorité du fait d'imaginer que moi, j'avais la vie plus facile, un complexe de privilégié en fait. Et voilà, et il y a plein de choses comme ça, d'amalgame entre les séries AB Productions qui me révoltaient. Mais j'ai commencé à avoir vraiment un syndrome de ce que c'était qu'être blanc et beauf, quoi. Et ça a été aussi quelque chose que j'ai mis dans les pages du Goût du Paradis. Donc c'était un espèce de patchwork de mon initiation au flirt, mon initiation à la violence... l'initiation au jugement de classe et de race que moi-même je me formulais de manière très confuse et voilà, et en fait toutes ces scénettes elles se sont je pouvais les mettre dans différents ordres et j'ai bien aimé faire ce puzzle et finalement me rendre compte que j'ai pas pensé faire un livre de 70 ou 80 pages mais que chapitre par chapitre en fait tout cela ça racontait un millefeuille qui était moi et finalement c'était plus un ton, une mélancolie et quelque chose d'un état lié à un âge et à un lieu que j'avais envie de raconter. Et ça m'a vraiment donné confiance pour me dire ok, en fait, ça aussi c'est une façon de raconter et je ne l'ai pas vu venir mais j'avais quelque chose à dire en fait. Et ensuite, je suis allée vers les sujets de Betty Page et Linda Loveless, mais c'est vraiment en m'étant emparée de ce que j'avais de plus évident et fort en moi que j'ai réussi à décapsuler. Quoi.
Tu pensais que c'était plus simple pour une première premier ouvrage ou c'était vraiment un besoin
C'était un besoin. C'était un besoin, mais c'est vrai que j'ai comme l'impression que ces histoires, elles étaient prêtes. Par exemple, je ne storyboardais pas à l'époque, je racontais... c'est à partir de ma deuxième BD, Coney Island, que j'ai commencé à storyboarder, parce que j'ai lu et fallait que je programme un peu mes chapitres, que je les construise. Mais le Goût du Paradis, les pages, elles venaient... elles sont venues, quoi, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté où... Il y a un moment où on est prêt aussi à raconter quelque chose, quoi.
Et alors là, bon, un petit peu différent, mais je voulais qu'on aborde aussi, on en a un peu parlé, de ta passion pour la musique,
ouais.
Avec tes dessins de concert notamment. Et bon, il y a ce fameux livre en deux tomes, Hotel California, qui est vraiment une immersion dans le monde de la musique des années 70. Donc qu'est-ce que la musique peut t'apporter en général et qu'est-ce qui t'intéresse, par exemple, quand tu cites des musiques dans tes livres ou quand tu t'y fais une immersion là, dans ce milieu-là, comme dans Hotel California?
La musique, ce que je trouve très fort, c'est que c'est une façon de définir et de montrer aux autres, et aussi de trouver un peu son chemin. Et j'aime bien les différents cercles concentriques qui font comment on évolue musicalement. C'est-à-dire qu'on part d'un lieu de naissance, d'une famille qui écoute telle musique. Si on habite, comme j'habitais moi, à Aubervilliers dans les années 80-90, forcément, il y avait la culture rap qui était très chouette. J'étais contente d'être née à ce moment-là et de bénéficier de cette musique. Mais on choisit pas vraiment à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est celle qui arrive un peu au tout venant à la radio et puis dans ma famille, mon père écoutait du rock'n'roll des années 50-60, j'aimais bien mais j'avais un rapport très passif en fait à la musique, c'était un peu ok, j'écoute ce qui vient devant moi quoi, et il y a des musiques qui me touchaient plus que d'autres, mais voilà, c'était un peu ce j'habite là donc j'écoute ça, et en fait j'ai eu ma révélation musicale en écoutant Bob Dylan, parce que au moment où j'ai commencé à sortir, à gagner un petit peu d'argent ou quoi, j'allais acheter des CD et puis j'achète un CD je vois Bob Dylan, ça sonne comme un peu un nom que tout le monde connaît, Bob Dylan, sauf que moi j'avais jamais écouté de ma vie Bob Dylan. J'achète l'anthologie et je l'écoute. Alors je dois dire que je l'écoute le lendemain de l'avoir acheté, après qu'un garçon avec qui j'avais couché qui venait de partir je regarde la pochette de Badjina et je me dis putain, mais il ressemble vachement au gars qui venait partir. Donc ça m'a encore plus donné.
Que t'as couché avec
Bob Dylan. Suis dit qu'il y avait un petit signe. Et en écoutant l'anthologie, eh ben, ça a été une grosse claque. En fait, je pense que c'est une espèce de Rimbaud, Bob Dylan. Et donc, quand on l'écoute à un âge charnière comme ça, moi, je devais avoir 18 ans, j'avais l'impression qu'il portait dans sa voix. Alors, je comprenais l'anglais, je comprenais peut-être pas tout ce qu'il disait, mais disons, allez, 50-60%. Et dans ce que j'entendais, il y avait quelque chose qui s'adressait à moi, quoi. À moi, en 2000, des chansons qui étaient écrites dans les années 60. Et j'adorais sa voix éraillée, un peu égale à nul autre. Et c'est la première fois que j'ai commencé à lire sur quelqu'un qui chantait. C'est-à-dire que d'aller de l'autre côté du miroir, de ne plus être juste dans le côté passif. Et de là est venu le goût des biographies aussi, des musiciens. Et ensuite, la presse aussi était géniale à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait, on lisait beaucoup la presse pour se documenter sur ce qui est l'actualité. Il n'y avait pas encore, Internet n'était pas venait tout juste de naître, donc ça me concernait pas du tout. Et donc acheter les In Rock, des hors-séries. Je me souviens du hors-série sur le Velvet, et c'était aussi une grosse claque. Donc il y a eu Bob Dylan, le Velvet. Et ensuite, le dictionnaire du rock, où je dis souvent que c'est aussi une de mes étapes pour moi, c'est de celui dirigé par Mishka Astayas, c'est de l'acheter un peu comme ça, en me disant « bon, je vais le regarder de temps en temps ». Et en fait, non, parce que chaque notule renvoyait à d'autres et chaque résumé de vie était tellement riche en anecdotes et racontait des personnes qui s'étaient... On avait l'impression qu'elles étaient mortes 10 fois, relevées 20, et que tous ces groupes, enfin ce côté hyper underground et avant, lire les aventures des gens avant qu'ils soient connus et se rendre compte qu'en fait il se passait 1000 trucs. Et en fait, j'adorais cet univers que je découvrais des années 60, 70, du côté vraiment brinque-ballant et de juste l'énergie qui faisait que ces gens faisaient de la musique. L'envie aussi de se taper des filles qui étaient clairement pas loin dans leur liste de priorités. Et la musique, tout simplement. En vrai, j'ai eu des émotions de dingue en écoutant Love, en écoutant Crosby, Stills & Nash, Les Doors. Bref, cette musique-là, ça... Ouais, c'est celle que j'ai choisie, en fait. Et c'est la première fois que je me suis dit « Ok, eh ben, là, moi, je choisis d'aller là. » Alors, il se trouve que c'était dans les années 60, mais au moment où j'aimais la musique, où je commençais à sortir, il y avait tout un renouveau du folk, le néo-folk, post-folk, je ne sais plus comment on appelait cette vague, dans les années que tu as connu aussi, Jean-Pierre, dans les années 2000. Donc, il y avait Devin Rabanart, Herman June, il y avait le Popin à Paris, où c'était vraiment un lieu, une espèce de scène ouverte où on pouvait... On pouvait voir des gens. Enfin, c'était comme un renouveau de la culture des années 60-70, j'ai l'impression.
Peut-être un peu différent ou pas, mais il y a aussi une autre corde à ton arc, en plus de l'écriture et du dessin, c'est le cinéma, qu'on n'a pas encore abordé. Donc en 2013, tu signes un court-métrage Tonight, qui est donc inspiré d'une de tes BD, d'un chapitre en fait, d'une BD qui s'appelle Tonight. Alors ça s'écrit pas pareil, vous irez regarder sur internet. Ça c'est un court métrage, et surtout tu réalises ton premier long métrage, donc qui s'appelle Playlist, donc qui est une comédie en noir et blanc. Quand même pour un premier film, je trouve ça très osé, et bravo, félicitations. Et donc qui est joué donc avec Sarah Forestier et Laetitia Deutsch, donc quand même pas n'importe qui, donc qui est sorti en 2021. Alors je ne sais pas si tu as d'autres projets de long métrage. Bon, tu as sorti un autre court métrage, on en reparlera peut-être tout à l'heure, le fond vert. Mais alors, qu'est-ce que, pourquoi cette envie de cinéma et qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins, je dirais, par rapport à la BD, au dessin?
Bah alors, le cinéma, c'est quand même une passion que je mets presque devant la BD. En tout cas, moi, pour moi, en tant que lectrice ou que donc, du coup, spectatrice, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de cinéma. J'y vais toutes les semaines. Ça m'a nourri, le fait d'aller toute seule en salle et de prendre comme ça les vies, des instants de vie, de musique, de le montage, enfin. Mais pour autant, moi, c'est voilà, c'est le, j'ai fait un an de fac cinéma à Saint-Denis, mais je suis pas restée. Il y a le dessin qui est revenu, mais je me suis toujours dit depuis ce stage-là cette époque-là que si un jour ça devait se recouper, ça le ferait. Et il se trouve que j'ai eu la chance qu'un producteur vienne me chercher après la parution de Girls Don't Cry, donc en 2010, pour me dire si ça m'intéressait. Enfin, il voulait adapter cette histoire et ce que moi ça me disait d'écrire pour le cinéma. Alors j'ai dit que oui, ça m'intéressait. J'avais participé à des courts-métrages quand j'étais à la fac de Saint-Denis avec des gens, alors que j'avais pas rencontré sur les bancs de la fac, mais chez Pizza Hut. Mais bref, en tout cas, c'était la même période. Et donc j'avais vraiment eu une envie de cinéma, mais je crois que rien que de faire des courts-métrages, je m'étais aperçue du côté fastidieux que peut avoir de réunir une équipe, du temps que ça prend et de la différence énorme entre ce qu'on projette dans sa tête et ce qu'on peut avoir finalement. Bref, la bande dessinée a quand même ce pouvoir magique de l'autonomie et de la liberté, quoi. Et voilà, mais en tout cas, quand ils sont venus me chercher, j'avais l'impression que c'était comme une espèce de petit miracle. Et ça s'est pas fait comme une évidence, le fait que je dise que je veuille le réaliser. Mais finalement, ils m'ont fait comprendre que au cinéma, c'est pas on choisit comme la liste du Père Noël. Alors j'ai fait scénario et je voudrais que ça soit, j'en sais rien moi, Noémie Jelowski ou François Ozon qui le réalise. Enfin, c'est pas comme ça du tout que ça se passe. Donc plutôt que de laisser quelqu'un avec qui j'aurais pas eu spécialement d'accroche s'en emparer, je me suis dit pourquoi je le ferais pas moi. Et à partir du moment où je me suis dit que j'en avais envie, fallait pas que ce soit la peur qui m'empêche de le faire. Donc quand j'ai mis la peur de côté, j'ai réussi à m'en emparer. Mais seulement cette légitimité, je dois dire qu'elle s'est construite aussi par le temps extrêmement long que prend le fait de faire un film. C'est-à-dire que sur le temps entre l'écriture du scénario, la prépa, le financement, la prépa, etc., on a le temps de passer plein de petites marches. C'est pas du jour au lendemain je me retrouve sur un plateau de cinéma. Donc et je dois dire que ça m'a beaucoup plu, l'expérience de playlist, et que oui, j'ai envie d'en refaire. Parce que ce que je trouve que ça convoque, c'est évidemment le son et le fait que ça soit interprété et que les talents d'autres personnes à tous les niveaux, de tous les corps des métiers du cinéma, viennent créer un ADN qui multiplie ce qu'on avait pensé. Donc ça, je trouve ça magique. Mais c'est vrai que je suis consciente que mon terrain de prédilection, c'est quand même la bande dessinée. Et le cinéma, ça reste un énorme bonus, quoi, que j'aimerais bien m'octroyer de temps en temps.
Alors tu parlais du son, justement, qu'amène le cinéma. Et donc il y a bien sûr une super bande son, super bande originale dans ton film Playlist. Et on va justement écouter un morceau, on en parlera après.
Together we're a team, and happiness is our goal. We don't know what
c'était Lee Spector. Le titre s'appelle Atim, et donc ça fait partie d'un des trois morceaux. Je crois qu'il y a trois morceaux d'elle dans playlist, avec plein d'autres groupes. Voilà, donc on vous invite à, si vous n'avez jamais vu ce film, à le visionner. Ça se trouve assez facilement.
Ouais, il est etc. sur les plateformes.
Voilà. Et donc peut-être prochain film bientôt. Donc bah maintenant on va encore, on va enfin arriver à une obsession. Ton livre qui est sorti là il y a quelques jours, donc chez Charivari. Donc il y a un ouvrage autobiographique. Voilà, contrairement à la plupart des autres que tu as fait, si ce n'est Le goût du paradis dont on a parlé juste avant. Moi je te propose, plutôt que de faire un résumé du livre qui est vraiment très riche et ça serait forcément réducteur, juste, je vais lire les premières lignes du texte qui donc du coup démarre, et puis je trouve que ça donne le ton. Donc ça commence comme ça. Le voyage était programmé, les billets réservés, puis nous sommes séparés. Fallait-il que j'aille seul à Venise? Je ne savais plus du tout ce que je voulais. En attendant de nos idées, je me mis à lire sur Venise et je remontais le fil de mon désir. Voilà. Donc là, c'est un récit autobiographique. Il y a le jeu, il y a cette histoire de la rupture qui est là, et de qu'est-ce qui va se passer après. Et voilà. Donc du coup, tu démarres sur, en revenant sur des souvenirs de jeunesse en lien avec l'Italie. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de tes origines. Tu viens d'une famille italienne.
Ouais, mon père vient des Pouilles. Mais pour l'instant, c'est vrai que mes deux livres qui parlent de l'Italie, c'est pas des coins qui sont liés à ma famille, mais c'est des coins plutôt que j'ai découverts en n'allant plus dans les Pouilles. Mais je prépare quelque chose sur les Pouilles. Mais donc, Madone et Putain, ça se passait entre Naples et la Sicile, donc le royaume des deux Siciles. Et une obsession, le décor, c'est Venise, le décor qui amène mes souvenirs.
Voilà, parce que c'est à différentes, effectivement, différentes chapitres, mais enfin, à différents moments, qui ne sont pas du tout chronologiques. Et effectivement, tu racontes tout ça à une femme gondolier.
Voilà, et... Alors, d'abord, le premier, c'est un gondolier.
Pardon, c'est un homme.
Non, je me suis beaucoup pris la tête pour savoir, attends, c'est un homme gondolier? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'on discute ensemble? C'est-à-dire qu'il y avait plein de façons de mener ce récit, qui est une sorte de monologue, en fait. Elle est conduite sur une gondole, elle voyage sur les canaux de Venise. Et c'est vrai que ce qui paraît l'évidence maintenant qu'il est construit comme ça, je me suis beaucoup interrogée sur est-ce qu'il fallait que ça soit un dialogue homme-femme, est-ce qu'on pouvait soulever des questions, est-ce que c'était elle la gondolière, parce que donc c'est un des événements, enfin une des notions qui m'importe beaucoup. C'est qu'à Venise, la caste des gondoliers, qui est très puissante, qui est très argentée aussi, elle était exclusivement réservée aux hommes jusqu'à il y a très peu, et que la première femme gondolière, c'était il y a vraiment pas si longtemps, c'était il y a une dizaine d'années. Elle a d'abord été seule avant d'être rejointe depuis peu par quelques femmes gondolières, mais elles sont 4 ou 5 pour 400 gondoliers. Quoi.
Alors je le disais, effectivement, tu as fait aussi un court-métrage qui s'appelle Le Fond Vert, qui commence un peu pareil, mais c'est assez différent. Est-ce que c'est venu avant ou après la BD ou...
C'est venu... Le texte, cette bande dessinée est d'abord venue par un texte qui est assez inédit pour moi, parce que c'est d'habitude des idées, j'ai une espèce de déroulé et quelques phrases par-ci par-là, mais ça se présente plutôt quand j'ai une idée de bande dessinée, j'ai 4-5 pages écrites et ensuite je fais un storyboard et je développe, etc. Là, j'avais 60 pages de texte que j'avais écrit parce que c'est venu un été, après un an après la séparation, de me dire il y a quelque chose que j'ai pas dénoué en moi, c'est pourquoi j'ai plus de désir et qu'est-ce qui s'est passé, et je vais essayer de comprendre comment j'ai désiré jusque-là. Et ça a donné un texte. Et ensuite, ce texte, je l'ai mis de côté pendant 2 ans, parce que je ne savais pas comment le rendre en dessin. J'avais pas envie de me frotter au réalisme des visages, et en même temps, j'avais pas envie d'en greffer d'autres, donc je savais pas comment le mener. Et le jour où je suis allée à Venise, je me suis rendu compte que c'était un décor parfait pour amener ce voyage-là, parce qu'effectivement, il s'était aussi greffé sur ce sentiment de perdition, parce qu'à l'époque de la séparation, j'avais 2 billets pour aller à Venise, et j'étais devenue schizophrène à force de me demander si j'y allais toute seule, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée d'y aller en étant triste, quoi, en fait. Et quand j'ai eu cette envie de Venise, en y étant, je me suis dit, ah, mais c'est ça qui me manquait pour mon récit, Ça peut être vraiment le décor parfait pour amener les souvenirs et pour en profiter pour masquer tous les personnages. Et en même temps, j'avais envie d'un film qui commencerait par cet avion que j'avais manqué, ou que peut-être, enfin là c'est un peu waouh, je révèle quelque chose, mais donc oui, je ne suis pas allée à Venise la première fois et j'étais hantée par ce voilà, bah, la voix qui annonçait à la porte d'embarquement mon nom et voilà cette absence en fait. Et j'avais beaucoup envie de travailler cette idée du voyage fantasmé, de la projection dans Venise, Venise qui est un endroit où même si on n'est pas allé, on l'a tellement bouffé au cinéma, en photo, enfin on a un imaginaire qui est déjà construit quoi. Donc j'avais envie vraiment de travailler qu'est-ce que c'est que cette projection dans Venise, et le fond vert qui est donc l'outil pour de la virtualité amener aussi bien le fond que la forme de ce projet-là, quoi. Et c'est aussi un écho au rayon vert de Romère, où il y a le personnage de Marie Rivière Marie Rivière, en plus, j'ai jamais fait la connexion avec la lagune, qui passe son temps à se demander ce qu'elle va faire de son été parce qu'elle est célibataire, etc. Donc, ce sentiment de doute perpétuel et de solitude, j'avais vraiment envie de le travailler en image et de voir comment je pouvais jouer du matériel vidéo pour restituer ça, et du son aussi, parce qu'il y a un travail sur la voix off, et mon livre est construit avec des citations qui sur Venise, qui ouvrent chaque chapitre, et ces citations on les retrouve pour la plupart dans le court-métrage que j'ai fait.
Qu'on vous invite à voir, je sais pas s'il est facilement visible.
Non, on peut m'écrire personnellement. En fait, je le mettrai en accès libre dans quelques mois, quand il aura fini d'essayer de faire des festivals, qu'il ne fait d'ailleurs pas, à part il a fait le FID à Marseille, ouais, qui est déjà génial. Dernier, ouais. Mais c'est vrai que depuis c'est plus compliqué.
Et alors moi, ce qui m'a très impressionné dans ce livre, que j'ai beaucoup 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 apprécié, qui remue vraiment à la lecture, c'est la, je sais pas trop comment le dire, mais cette mise à nu que tu fais, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment voilà, et je trouve ça impressionnant. Je me demande comment tu as envisagé le travail en sachant que le livre allait être publié. Alors tu parles effectivement que les personnages ont des masques liés au carnaval de Venise. Est-ce que ça te permettait effectivement d'avoir un certain anonymat, de ne pas citer forcément, montrer les gens? Mais comment
Ouais, alors moi j'avais pas
géré ça quand même, parce que c'est.
J'avais pas de peur liée au fait qu'on me lise. Mais par contre, j'avais envie et j'avais peur de mal choisir mes mots et des mots qui seraient tout faits, des mots qui seraient théorisés ou qui essaieraient de, je sais pas, enfin ça a été le plus l'endroit de travail pour moi, ça a été de me dire que j'étais fidèle à un ressenti, mais c'était pas tant par rapport aux autres que par rapport à moi-même, quoi. Enfin, d'essayer d'être honnête avec moi-même. Et voilà. Après, l'appréhension, ça n'a pas été au moment de la fabrication du livre, parce que là, il y a une envie de travail, en fait, de réussir à mettre en forme comme on sculpte une matière, quoi. Donc ça devient un peu méta, quoi. Donc on pense plus à ailleurs, en fait. Mais par contre, une fois que voilà que j'ai eu le livre, le laps de temps entre j'ai eu le livre dans les mains et il n'était pas encore sorti, mais j'en ai parlé à ma famille, à mes proches, etc. Et c'est ce moment-là qui est très fébrile, je trouve, parce que là on se rend compte que en dehors de, même si évidemment je savais que c'était pour le partager, mais là ça devient concret. Disons que les appréhensions, elles viennent juste à ce moment-là, mais avant ça il y a un bouclier, et après ça il y a un peu un what the fuck, j'y fais plus rien. Ouais.
Bah non, félicitations, parce qu'effectivement moi je trouve ça impressionnant, vraiment, je vois pas d'autres mots. Il y a, bon, sans Bon, sans tout raconter, parce que on n'a malheureusement pas le temps, et puis c'est pas au lecteur de découvrir, je dirais, et aux lectrices, bien sûr. Mais le fil conducteur, c'est quand même effectivement cette recherche de l'origine du désir, du plaisir, enfin, je sais pas comment tu le nommerais.
Ouais.
Bon, il y a plein d'effectivement d'événements que tu remontes, et il y a, je dirais, l'espèce de nœud du livre. Je sais pas si c'est vraiment là l'origine, je ne sais même pas si toi tu le sais, mais...
Non, bah, voilà. Je pense que le livre essaie de fonctionner par strates et de, en tout cas, de montrer qu'il y en a avant, il y en a après celle-ci, et conséquente, c'est sûr. Donc c'est ce qui s'est passé avec C, mon personnage. Mm-hmm. Donc et tout le livre, tout l'enjeu du livre, justement, et là où c'était le plus dur, c'était d'essayer de travailler comment je nomme, qu'est-ce que je dis par rapport à ce que j'ai ressenti. Et aussi de me dire, ce que j'ai ressenti, c'est des mots que je me suis construite après, ou est-ce que c'est vraiment des choses que j'ai ressenties? Et en fait, qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'étais petite? Et finalement, c'est comme une poupée russe où on ne sait plus si ce qu'on pense et ce qu'on dit et ce qu'on a ressenti. Donc là, je parle d'un rapport d'attouchement sexuel et même plus avec quelqu'un qui était proche de ma famille, donc une espèce de forme d'inceste, ou de l'extérieur aussi on peut mettre des mots comme viol, ou mais moi j'ai même encore maintenant quand je dis c'est comme si je me prenais une grosse baffe d'un mot qui est très très lourd et qui a son importance dans la vie de nommer les choses, mais c'est tellement plus compliqué quand ce mot-là il a un ressenti qui n'est pas aussi clair et net en soi, quoi. Mais pourtant qui a un impact vécu dans le corps. Donc ce que je raconte, c'est au-delà du fait de pouvoir nommer, c'est en tout cas ce que mon corps a ressenti et pas ressenti. Et comme il a été un chemin pour moi important de récupérer une connexion entre mon corps et ma tête, justement, et de pouvoir aller accéder au plaisir au fur et à mesure, quoi. Et j'aime vraiment l'idée que la bande dessinée, même encore maintenant, c'est-à-dire que j'aime les trous qu'il reste dans mes mots encore maintenant, le fait de pas tout délimiter et trancher, même si voilà il y a des fois où j'arrive à dire des choses, il y a des fois où j'arrive pas, là par exemple je le formule d'une certaine façon, et je trouve que ma bande dessinée j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit comme ça, quoi, qu'elle soit aussi elle fluctue.
Oui, il y a aussi graphiquement aussi quelque chose de différent dans ce livre. Est-ce que là aussi tu l'as abordé
en fait,
particulière. Enfin, on peut dire en deux mots, effectivement, d'habitude tu as un trait plus fin, je dirais.
Ouais,
vraiment au niveau de l'épaisseur, hein, je ne parle pas de subtilité, loin de là. Et là, c'est un travail plus au pinceau.
Ouais, plus lâché sur le geste, lié à, effectivement, au fait que j'utilise un feutre pinceau. Depuis Madonna et Putain, il y avait... En fait, Madonna et Putain est vraiment assez proche dans sa façon d'être dessinée et maquettée. Il avait aussi cette voix off très importante qui mène le récit. Et finalement, ce qui se passe dans les cases, avec des dialogues... Et minoritaire par rapport à la voix off. Mais par contre, il y a quand même une circulation et des chassés-croisés entre le off et le in. Et j'aime bien, voilà, que c'est un peu une construction comme un puzzle où il y a des trous, quoi. Et où on peut bouger, je sais plus comment ça s'appelle, les jeux comme ça, un peu domino, où on fait bouger. Comment ça s'appelle ?
Le taquin, je crois.
Le taquin. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu. C'est un peu cette image-là, mais ma façon de maqueter maintenant.
Tu veux dire entre les rapports texte-image ?
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a pas, les dessins sont pas présents forcément sur toute la page, le texte non plus, mais que ça crée une respiration, soit pour l'image, soit pour le. Ouais, je crois que c'est pour vraiment. J'avais besoin que cette forme de maquette, enfin de dessin. Appuie ou laisse de l'espace aux mots et vice versa. Et qu'on ait vraiment le temps de digérer et que les laisser se répercuter, quoi. Leur donner de l'espace.
Je pense que c'est réussi parce qu'effectivement, on a vraiment cette forme de presse de texte illustré où effectivement l'importance du texte et puis ces grandes doubles pages à certains moments de dessin qui amènent quelque chose, je pense, lors de la respiration par rapport à des fois des scènes qui sont plus graves. Non, mais moi, j'avais une dernière question concernant ce livre qui est peut-être, je ne sais pas si elle est pertinente, mais en tout cas, moi, je sais que je l'ai beaucoup aimé. J'ai d'autres amis hommes qui l'ont beaucoup aimé. Et donc, je voulais savoir si tu avais des retours de lectrices. Voilà. En fait, ma question, c'était est-ce que c'était un livre peut-être un peu féministe, mais que les hommes pouvaient appréhender ? Ou est-ce que c'était un livre, je dirais presque universel, que du coup, les hommes aussi puissent...
Je pense que c'est le livre qui m'a amené le plus de retours d'hommes par rapport à tout ce que j'ai fait. Alors, évidemment, comme ça parle de sexualité et que donc de relations à deux, et c'est aussi un des livres où je les inclus le plus, parce que c'est vrai que finalement, dans mes autres livres, il y a plus une dimension de décor ou d'objet, ou même si ce sont eux qui viennent amener ce qui se passe dans les pages, ils sont au second plan. Là, ils font quand même vraiment partie à 50-50 de ce qui m'arrive, quoi, de mon évolution. Et c'est aussi presque un hommage, vu que enfin, l'obsession, c'est, ils y sont liés. Donc il y a, je pense, une façon de regarder qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui se joue en fait dans ces moments d'intimité, et de peut-être représenter des choses qu'ils ont, enfin, ce que je comprends à travers les messages que je reçois, c'est que oui, ce que je raconte, même si les gens sont pas exactement passés par ce que j'ai vécu, n'ont pas vécu de violence sexuelle, mais de façon claire et nette, en tout cas, le parcours du désir et du plaisir est alambiqué. Et ça, alors pour les femmes, je pense qu'on a un malus, même si c'est pas un bon terme, on a un famus à la base, parce qu'on est plus objectivé, ça c'est sûr et certain. Mais le désir du côté masculin, il est aussi pavé de détours, quoi. Donc je pense que tout ce que je fais est féministe par la force des choses, mais féministe inclus dans humanisme, mais effectivement ça va ensemble, quoi.
Je confirme. Malheureusement on n'aura pas le temps d'aller plus loin, mais en tout cas ce livre est tellement riche que on pourrait en parler pendant des heures, et le mieux c'est de le lire. Donc voilà, vous le trouverez assez facilement. Donc ça s'appelle Une Obsession, c'est paru chez Charivari.
Ouais, c'est la nouvelle collection chez Dargo.
La belle de chez Dargo, tout à fait. Je voulais juste conclure sur un passage à la fin du livre. Tu mets « Un livre n'est pas une vie », puis tu ajoutes plus loin, mais il peut lui donner sens. Je trouve que c'est une belle formule. Et voilà, merci infiniment en tout cas pour ce livre. Juste pour finir... peut-être parler de tes projets à venir en vraiment quelques secondes.
Je suis dans le storyboard d'une adaptation pour la première fois. J'ai eu envie de m'emparer d'un texte qui n'était pas le mien, et c'est le texte d'Hélène Frappa, Trois femmes disparaissent, qui a un peu une continuité de Madone et Putain, mais dans une autre version cinéma, avec la trajectoire de Tippi Hedren, Melanie Griffith, Dakota Johnson.
C'est vrai, on attend, et donc ça sera plutôt dans...
Là, alors je pense qu'il me faut une bonne année et demie avant qu'il soit sorti.
2027, ouais. On attend de lire ça avec impatience. Le livre, lui, est toujours. En tout cas, vous pouvez le lire. Trois femmes disparaissent d'Hélène Frappa, chez Actes Sud, je crois. Et voilà. Et juste une petite rubrique agenda. Donc tu l'as cité. Donc samedi 29 novembre, le dévernissage de ton expo à la librairie La Réserve à Bulle.
Avec une rencontre avec Claire Brault pour son BDQ qui vient de sortir. Et aussi, juste avant. Le jeudi 27, je serai à la librairie Pantagruel avec Hélène Frappa pour son livre qui s'appelle Néron, qui est sorti en août.
Oui, c'est super aussi.
Dont j'ai fait la couverture.
Ah oui, c'est vrai. Bon, bravo. Et bah, du coup, donc ça, ce sera jeudi 27.
Ouais.
Super. Bah, encore merci infiniment, Nine.
Merci, Jean-Pierre.
Cet exercice.
C'est passé vite.
Et merci à Radio Galère, complètement. Et merci à vous, les éditeurs. Donc, on se retrouve le mois prochain. C'est jeudi 11 décembre à 15h pour une prochaine émission de BIM. Merci, à bientôt.
Au revoir.